FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Allez, bonjour, bienvenue, c'est Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné comme chaque dimanche. Je suis ravi de vous retrouver, on est parti pour une heure de ciné à la radio. Au programme, les sorties ciné de mercredi prochain. Dans moins de 2 minutes, je vous ai sélectionné un blockbuster et 2 documentaires. Vers 11h30, ce seront les résultats du box-office, pas terrible cette année, je vais pas vous mentir. Et les actus ciné de la semaine avec des biopics annoncés sur les Beatles, la suite de la série Berlin et un flop pour des super-héroïnes. Mais autour de ces rendez-vous, notre fil rouge de la semaine sera un festival qui nous tient vraiment à cœur ici dans Studio B, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, alias le PCMMO, qui commence ce mercredi, qui va durer 2 semaines. Un festival qui nous est cher, c'est la 19e édition cette année, une édition un peu spéciale, endeuillée par la disparition le 25 décembre dernier de celle qu'il a portée durant de nombreuses années, la directrice artistique du PCMMO, Emma Raguin. On lui rendra hommage dans cette émission et surtout on parlera du festival qui continuera et de cette édition qu'elle a continué à préparer jusqu'au bout. 2 invités pour nous en parler. Layane Chaouaf, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Merci de nous recevoir.
Vous êtes la responsable cinéma à l'Institut du Monde Arabe où vont se dérouler quelques projections du PCMMO. Et donc vous nous parlerez de la programmation. Et avec nous également Omar Mouldoura, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM. Vous aussi, vous avez réalisé Un été à Boujad, un film qui est donc programmé au PCMMO. On a une coutume dans cette émission, c'est de proposer à nos invités de choisir 2 questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose et qu'on vous posera donc durant l'émission. Une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose, celle-là on vous la posera pas parce qu'on est quand même plutôt sympa globalement. Et donc c'est Omar qui a gagné le droit de donner ces 2 questions. Est-ce que vous les avez donc?
Alors, j'ai réfléchi il y a 2 minutes à peine, donc elles sont un peu interchangeables. Il y en a une, j'en ai un peu marre de l'entendre, c'est est-ce que le film est autobiographique?
D'accord.
Donc à chaque fois je réponds c'est semi-autobiographique, mais je ne vous dirai pas quelle est la part de vrai, quelle est la part de faux.
Ok.
Parce que ça reste quand même de l'écriture et c'est des années, il y a au moins 5 ans d'écriture et de réécriture derrière. Donc au bout d'un moment, même moi je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc cette question, j'ai envie un peu qu'on l'évacue.
Oui, sauf que vous venez d'y répondre finalement.
Parce que en plus, je viens d'y répondre. Et voilà, comme ça c'est fini. C'est la dernière fois que j'y réponds sur le plateau de Beurre FM.
C'est définitif.
Vous avez compris? Okay. Parce que ça reste de la fiction, sinon j'aurais fait un documentaire.
Bien sûr.
Et celle qui m'embête, mais j'aimerais bien qu'on me la pose, même si elle m'embête, c'est quel est votre prochain film?
D'accord.
Parce que, j'en ai aucune idée. C'est comme si on demandait à des parents quel est votre prochain enfant. Et donc j'en sais rien. Et en même temps, c'est bien qu'on me la pose parce que ça me met un peu la pression pour que je me remette au travail.
Mais alors, du coup, je vous la poserai un peu plus tard. Vous avez presque répondu, mais je la note quand même et je vous la poserai un peu plus tard. Voilà, on a tout le programme, on a les questions. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 25 février. Bienvenue dans le 128e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Dans les sorties ciné de ce mercredi prochain, l'événement ciné, c'est la très attendue sortie de Dune 2, le film de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, mais aussi les Français Léa Seydoux et Charlotte Rampling, et la Suissesse Souila Yacoub. Si vous avez raté le premier épisode, c'est l'histoire de Paul Atreide, un jeune homme qui doit aller sur la planète Dune, où on trouve une ressource super précieuse qui s'appelle l'épice. Sauf que cette planète est convoitée par les obscurs Harkonnen.
Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles et elle a été massacrée. Y compris mon père.
Ton père ne croyait pas à la vengeance.
Nous croyons aux Fremen.
Laissez-moi combattre à vos côtés.
Les Fremen, c'est le peuple qui habite la planète Dune. Ils ont le même ennemi que Paul. Ils vont donc se ranger derrière lui, car un de leurs textes dit qu'un jour un prophète viendra les aider et ils pensent que c'est lui le prophète.
Le prophète? Pourquoi ce serait une mauvaise chose? Il faut t'en servir!
Parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs.
Occupez-vous de ce prophète. Envoyez des assassins.
Beaucoup de pression donc sur Paul, mais il va pouvoir compter sur Shannin, une Fremen dont il va tomber amoureux.
Je veux que tu saches, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle.
Alors Dune, c'est l'adaptation d'un roman de science-fiction de Frank Herbert. Denis Villeneuve avait sorti la première partie à l'automne 2021, un premier épisode qui voulait un peu poser le décor. La seconde partie démarre quelques heures à peine après la fin de la première et le réalisateur promet beaucoup plus d'action et une histoire vraiment beaucoup plus rythmée, là où le premier posait un peu le décor quoi. Les premières critiques américaines en tout cas sont très élogieuses, elles parlent d'une réussite cinématographique monumentale, d'une masterclass artistique, ou encore disent que Timothée Chalamet et Zendaya n'ont jamais été aussi bons. Bref, le succès devrait être au rendez-vous, les recettes seront sûrement aussi forte que le premier, qui avait rapporté 391 millions de dollars. De quoi remplir les salles de ciné qui sont un petit peu vides, on va dire, en ce début d'année. Je vous ai sélectionné aussi deux documentaires qui sortent ce mercredi, à commencer par La mère de tous les mensonges, film d'Asmaël Moundir, qui sera d'ailleurs présenté au Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. L'histoire, donc, c'est un documentaire d'Asmaël Moundir. À 12 ans, la réalisatrice s'est rendue compte qu'elle n'avait aucune photo d'elle alors qu'elle était enfant. Elle a interrogé sa mère qui lui a donné la photo d'une autre petite fille. Ça l'a vraiment troublée. Et la raison de ce mensonge familial qui va plus loin qu'elle, puisqu'en fait il n'y a aucune photo de cette période dans sa famille, elle va le trouver un peu plus tard lors d'un déménagement de ses parents où elle va trouver des photos. Et en fait, en juin 1980, ont lieu à Casablanca des émeutes, les émeutes du pain, un soulèvement populaire réprimé avec violence et des dizaines ou des centaines de morts parmi les manifestants. Les autorités ont voulu effacer toute trace de ces émeutes et le destin de sa famille en a été modifié. Ce film est donc la vraie enquête d'Asmaé El Moundir sur l'histoire de sa famille, mais qui rejoint aussi l'histoire du Maroc. Un documentaire qui a reçu l'étoile d'or, le grand prix du festival de Marrakech en décembre dernier et qui a aussi été primé deux fois à Cannes. Et puis autre documentaire qui sort aussi ce mercredi, documentaire Revivre de Karim Dridi. Le réalisateur tunisien refait une incursion dans le documentaire avec ce film sur les jeunes enfants en attente de don d'organes, bande annonce.
Bon, Luna est inscrite en liste de transplantation en urgence. Elle est quasiment en première position pour recevoir un foie, d'accord ?
Votre boulot, c'est de le faire revenir dans le monde des vivants, lui parler, faut qu'il hop, il raccroche avec son papa, sa maman.
D'accord. C'est un champion, ce bébé.
Tu sais que je lui ai toujours pas expliqué à Luna ?
Pour la gueule ?
Non. Faut que tu continues d'être forte comme t'as été jusqu'à maintenant.
On a combien ce monsieur d'anesthésie générale ?
8ème.
8ème, donc ça commence à faire beaucoup.
Il est là, mon bébé, t'inquiète pas, il est toujours vers toi.
Pour moi, si son cœur il repart, mais un tout petit peu, ce serait miraculeux.
Tu vas être gavé, mon chat.
Le documentaire Revivre, il sort donc ce mercredi, forcément un documentaire touchant dès que ça touche des enfants. C'est toujours très touchant. Karim Dridi qui dit « Je suis assez critique de mon pays, de ses institutions surtout, et là j'ai voulu réaliser un film qui montre qu'on a en France un service public qui sauve nos enfants et qu'il faut absolument préserver. Il voudrait que son film porte les sujets de la crise des services pédiatriques et celui encore tabou du don d'organes des enfants. » C'est donc Revivre de Karim Dridi et ça sort aussi ce mercredi.
Studio B, l'interview.
On arrive à notre interview, notre fil rouge de la semaine, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Je voulais avant tout rendre hommage à Emma Raguin. Elle a été la directrice du PCMMO, mais c'était surtout le moteur de ce festival. Elle était venue plusieurs fois à nos micros pour parler du festival. Je me rappelle à chaque fois d'une femme vraiment avec une énergie folle, une bonne humeur communicative, un enthousiasme vraiment qui communicatif aussi. Une connaissance de chacun des films programmés, une envie de les faire connaître et de les partager avec le plus grand nombre, ce qui est un peu les valeurs aussi de cette émission. On essaie de vous faire découvrir des films et de vous donner envie d'aller les voir. Et bien, Emma Raguin, elle donnait vraiment envie d'aller voir les films. C'était donc Emma Raguin, elle nous a quitté en décembre dernier. On voulait lui rendre hommage ce matin avant de parler du festival qui débutera dans quelques jours. La disparition est encore récente et c'était compliqué pour sa famille. On pense notamment à sa fille ou à son mari qui poursuivent l'organisation du festival. C'était compliqué pour eux de venir parler d'elle. On les comprend complètement et on les salue s'ils nous écoutent. Layane Chaouaf, la responsable cinéma de l'Institut du Monde Arabe qui est avec nous pour parler d'elle. Vous avez souvent travaillé avec elle, mais au-delà de travailler avec elle, c'était aussi votre amie.
Oui, effectivement. Depuis 10 ans, nous avons relancé un partenariat donc avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, et entre donc le Panorama et l'Institut du Monde Arabe. Et c'était un réel plaisir de travailler avec elle tous les ans, tout le long de l'année aussi, parce que c'était pas juste pendant la période du festival, mais on continue à faire des séances aussi pendant toute l'année. Emma était quelqu'un de visionnaire déjà, et c'était une personne donc lumineuse, solaire, comme tu l'as dit, enthousiaste, mais toujours dans la bienveillance. C'était quelqu'un qui ne s'arrêtait pas aux films qui sont promus dans des festivals, etc., mais qui allait chercher plus loin des films qui n'ont jamais été présentés. Donc elle les faisait connaître, et par la magie d'une seule programmation lançait certains réalisateurs. Donc c'est un travail de fourmi qu'elle effectuait toute l'année, et puis elle considérait que tout film méritait une considération parce que le réalisateur y a mis quand même toute son énergie, tout son temps pendant plusieurs années. Donc c'était quelqu'un vraiment toujours dans la bienveillance. Elle essayait toujours de trouver des qualités à un film, quel qu'il soit. Et c'était vraiment une pure merveille de travailler avec elle. Et je rajouterai aussi sur le plan personnel, puisque c'était vraiment une amie, elle était toujours à l'écoute de ses amis, elle était toujours là pour eux. Donc vraiment, c'est une perte incommensurable, vraiment.
Je retiendrai de ce que vous dites le mot solaire. En effet, c'est quand j'ai essayé de la décrire, alors moi je l'ai pas vue si souvent que ça. Elle venait régulièrement pour le PC, pour parler du PC MMO à nos micros. Mais c'est vrai que le mot solaire est je pense un mot qui la caractérisait vraiment. Omar Mouldougra, vous présentez donc votre film Un été à Boujade dans cette édition du festival. Cette édition, elle en est aussi la directrice artistique. Elle, comme je le disais, elle a contribué à faire cette sélection, à faire la sélection de ce film, de ces films pour cette édition du panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, c'est elle qui a sélectionné votre film. Vous l'avez rencontré plusieurs fois aussi ?
Oui, je l'ai rencontré depuis quelques années déjà. Pour mon film Margelle, qui est passé il y a quelques années, qui a été sélectionné.
C'est un court-métrage ?
Ce qui est un court-moyen-métrage. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Layane. Je pense que ce qui la caractérise le mieux, c'est le mot bienveillance. Parce qu'elle est... C'est vraiment moi ce que je retiens d'elle, parce que quelques années plus tard, j'avais proposé un documentaire et il n'a pas pu être sélectionné. Et je me souviens de son mail qui était très très bienveillant. Elle a mis toutes les pincettes pour expliquer le pourquoi du comment. Et là, la dernière fois que je l'ai vue, c'était donc au Cinémed à Montpellier en octobre. Et pareil, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue et c'est ce que j'ai tout de suite ressenti. Et voilà, je suis vraiment très triste. J'ai appris la nouvelle entre Noël et le jour de l'an. Et voilà, j'ai une pensée toute particulière pour sa famille, pour Kamel, son mari, Lila, sa fille. Et je pense que cette édition va avoir une couleur particulière.
Oui, forcément, on va beaucoup penser à elle. D'ailleurs, il y a un hommage qui lui est rendu. Le festival va s'ouvrir par cet hommage. C'est ce jeudi 29 février au cinéma L'Écran à Saint-Denis. Voilà, un hommage, une cérémonie d'hommage donc à Emma Raguin, la directrice artistique du PCMMO, avant la projection du premier film qui sera le film Danser sur un volcan de Cyril Harris. Donc c'est le jeudi 29 février, donc ce jeudi, au cinéma L'Écran à Saint-Denis. Comment se passait l'organisation, les échanges entre l'Institut du Monde Arabe et le PCMMO?
Alors c'était un réel partenariat, parce que moi je fais quand même beaucoup de partenariats avec différents festivals qu'on reçoit à l'Institut ou d'autres festivals à qui nous proposons des programmations. Mais l'échange avec Emma était vraiment très particulier, parce que c'était vraiment un travail à deux. Moi, de par la nature de mon travail, je visionne toute l'année beaucoup de films arabes, et elle aussi. Donc on échangeait sur plusieurs films, et pendant le festival, en fait, on passait toujours deux ou trois films. Un du Maghreb et un du Mashrek, puisque le panorama porte sur les cinémas du Maghreb et du Mashrek.
Oui, il a été étendu. Au début, c'était juste le panorama du cinéma du Maghreb, et ça a été étendu au Moyen-Orient ensuite.
Effectivement, parce que c'est vrai que les premières éditions, c'était les cinémas du Maghreb uniquement, et par la suite, ça s'est étendu. Et Emma avait proposé aussi des films de tout le Mashrek, hein, pas que des pays arabes, mais également turcs, afghans, iraniens, etc. Il couvrait vraiment toute la région de l'Orient, c'est pas juste les pays arabes. Nous, en tant qu'Institut du Monde Arabe, on passait deux films arabes, un du Mashrek, un du Maghreb. Parfois, on n'arrivait pas à se décider parce qu'on aimait trop de films toutes les deux. Et donc, on mettait une troisième séance. Donc, on s'adaptait vraiment. Parce qu'il y a des années où vraiment la production est très importante. Et les bons films sont légion. Donc, on a du mal à choisir quand il y a beaucoup de films qui nous plaisent. Et on discutait des films. Alors, parfois, bon, moi, je voyage énormément... dans les festivals arabes. Du coup, je vois beaucoup plus de films qu'elle n'a pas vu parce qu'ils ne passent pas forcément dans les festivals ici en France, ou enfin dans les festivals auxquels elle se rendait parce que
il faut du temps qu'ils arrivent jusqu'ici en fait.
Voilà, il faut du temps. Et moi, je lui disais, tiens, j'ai vu tel film. Tu veux qu'on le passe? Donc on demande un lien pour qu'elle puisse le voir. Et puis elle, pareil, là par exemple, Omar avait dit qu'elle était au Cinémède. Effectivement, elle m'a dit.
C'est un festival à Montpellier, hein, pour ceux qui connaissent.
Voilà, à Montpellier. Et moi, je ne vais pas à Montpellier, je reconnais, je ne peux pas faire tous les festivals non plus. Elle a vu Backstage là-bas, donc à Montpellier. Et nous avions croisé à Cannes Afef Ben Mahmoud, qui est l'une des réalisatrices du film. Et elle nous en avait parlé, elle était encore en train de tourner. Et on était toutes les deux et on lui avait dit, il faut nous envoyer un lien. Et puis donc Emma l'a découvert à Montpellier, elle m'en a parlé. Donc c'est elle qui m'a envoyé le lien cette fois-ci. Et effectivement, le film me plaisait beaucoup. Et du coup, on a sélectionné ce film. Voilà. Donc c'était vraiment un échange permanent. Mais vraiment permanent. Quand j'arrivais pas à voir un film, c'est voilà, elle me l'avait. Et vice versa aussi. Donc c'était vraiment un vrai partenariat et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de générosité, parce que c'est important la générosité dans le travail.
Voilà, on continuera évidemment ici de parler du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, déjà de cette édition, de cette 19e édition, et puis on sait déjà qu'il y a une 20e édition, le festival va continuer, il y aura une 20e édition l'an prochain, à l'issue duquel sera sorti un livre qui regroupera, qui célébrera les 20 ans de ce festival qui continuera et qui commence déjà dans quelques jours pour cette 19e édition. On en parle jusqu'à midi dans Studio B sur Beurre FM. Restez avec nous.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Merci d'être avec nous, vous écoutez Beurre FM, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Comme chaque dimanche, on parle de cinéma et on met à l'honneur cette semaine le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Le PCMMO, festival qui nous est cher et qui commence ce mercredi, qui va durer une quinzaine de jours, avec une belle programmation de plein de films à voir au cinéma, l'écran notamment, et puis dans des salles partenaires en région parisienne, et puis notamment aussi à l'Institut du Monde Arabe. Parmi nos invités, Layan Chawaf, donc, qui est responsable cinéma de l'Institut du Monde Arabe, et Omar Mouldoura, vous êtes le réalisateur du film Un été à Boujab, dont on écoute la bande-annonce. Alors, on a entendu dans l'extrait de la bande-annonce que le film tourne autour de l'histoire donc de ce jeune Karim. Mais c'est un peu plus que ça, votre film. Si je vous demande de le résumer, comment vous le pitcheriez ? On était à Boujad.
C'est plein de choses qui se sont agglutinées les unes aux autres au fur et à mesure de l'écriture. Mais en substance, c'est le retour d'une famille marocaine dans les années 80, le retour au pays, donc de la France vers le Maroc. C'est l'immigration à l'envers. Hein, souvent, il y a beaucoup de films sur l'immigration, mais il n'y en a pas beaucoup sur l'immigration à l'envers, c'est-à-dire le retour au pays. Et tout ça est vu du point de vue d'un enfant de 13 ans, Karim, qui va redécouvrir son pays d'origine, qui va redécouvrir sa nouvelle famille recomposée parce que sa mère est décédée. Et qui va essayer de trouver sa place dans le cœur de son père, trouver sa place dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle patrie, et essayer de savoir qui il est véritablement.
Alors, comme vous dites, il y a beaucoup de films sur l'immigration. On en a vu plein. On en parle de beaucoup ici, mais peu sur le. Là, vous prenez le sujet à rebours, quoi. C'est un film sur le retour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet?
Parce que il y a une question qui me taraude depuis longtemps. C'est quand cessons-nous d'être étrangers? Et cette sensation d'être étranger, elle est à différents niveaux. Et ce qui m'a intéressé dans le traitement cinématographique, qui est aussi l'art du regard, c'est on montre des choses au spectateur, et ça marche que par le regard et par ce qu'on montre ou pas au spectateur. Et je me suis dit, mais le thème de l'étranger, c'est aussi une histoire de regard. Et Karim, quand il retourne avec son père au Maroc, le regard qu'il a, que son père a sur lui, change. Le regard que les Marocains ont sur son père ont changé, parce que avant le seul contact qu'ils avaient avec le Maroc, c'était les vacances d'été.
Il l'appelle encore le vacancier d'ailleurs.
Il l'appelle d'ailleurs le vacancier, c'est toujours vacancé on dit. Et quand ils étaient vacanciers et quand ils rentraient au bled avec la Renault 12 remplie de cadeaux à tel point que les essieux touchaient le sol, on l'appelait Baba Noël de l'été. Oui. Voilà. Et même moi, je me souviens, pour moi, Noël, c'était l'été, parce que l'usine dans laquelle travaillait mon père, on leur offrait à Noël des cadeaux pour les enfants, donc pour nous, donc on devait choisir. Et sauf que comme la plupart retournaient au pays qu'en été, les cadeaux restaient dans l'usine jusqu'en juin. Donc c'était
Noël,
une souffrance de se dire tous les petits Français, ils ont leur cadeau le 24 décembre et moi je dois attendre le 24 ou le 25 juin pour l'avoir. Et donc pour moi, le Noël, c'était l'été, quoi. Et ce regard donc qu'a Messaoud, donc le père de Karim, change, parce qu'il passe de Baba Noël de l'été quand il vient qu'une fois par an à le Zmigri, qui rentre au pays, qui quelque part devient personne.
Le Frenchie aussi.
Et qui devient le Frenchie. Et c'est toute cette confusion identitaire, moi, qui m'a intéressé à plusieurs niveaux, et on pourra en reparler de manière plus approfondie après.
Vous avez choisi l'été 1986 pour comme période pour le film. Pourquoi vous avez choisi cette période-là plutôt qu'une période plus moderne ou plus ancienne finalement?
C'est une très bonne question. Pendant toutes les étapes d'écriture, j'ai pas arrêté de changer de période. Déjà, d'un point de vue production, quand vous dites à un producteur « je vais faire un film dans les années 80 », il dit « t'es sûr ?»
Oui, parce que c'est plus cher.
Ben, bien sûr que c'est plus cher. Parce
qu'il faut trouver des éléments de décor.
Tout à fait, les costumes, il faut faire des recherches de costumes, d'accessoires, il ne faut pas se tromper. Et forcément, ça coûte cher, ça se fabrique tout ça. Même si Boujade est une petite ville marocaine qui est un peu restée dans son jus.
Elle a peut-être pas trop changé, on a l'impression.
Un peu. Faut faire attention où est-ce qu'on cadre, parce que parfois il y a des panneaux, il y a écrit autoroute, ce qui est de la science-fiction dans les années 80. L'autoroute n'existait pas, et là tout d'un coup il y a l'autoroute qui va presque jusqu'à Boujade.
Peut-être des marques, des voitures, des objets.
Des antennes paraboliques partout. des magasins qui vendent des téléphones partout. Donc il fallait un peu jongler. Il fallait un peu à la déco. On passait notre temps à cacher tous les boîtiers électriques moderne, etc., pour faire un peu la blague. Mais quand même, la ville était déjà un décor un peu figé dans le temps, malgré tout ça, et ça nous a été d'une grande aide. Mais pour répondre à votre question, pourquoi les années 80, c'est que à un moment, j'ai même pensé faire ça pendant les années 2000 ou plus récent, et je me suis rendu compte que j'étais en train de tricher. Que ça ne fonctionnait plus. Tout à l'heure, je disais, la question que j'aime pas qu'on me pose, c'est est-ce que c'est autobiographique ? Non, ça ne l'est pas. C'est semi. Il y a des choses qui sont...
Qui viennent de vos souvenirs, en fait, peut-être.
Voilà, il y a des choses qui proviennent de souvenirs, des choses qui sont des fantasmes, des choses qui sont des mélanges. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas sincère quand je racontais une histoire à une autre époque. Que... Voilà, vu mon âge, le temps de mon adolescence, de cette expérience, était les années 80. Et c'est cette expérience-là, cette sensation-là, et surtout ce que raconte l'époque, qui imprègne cette histoire. Et la mettre à une autre époque, c'est quelque part tricher, c'est pas être sincère, et peut-être que le spectateur n'y serait pas retrouvé.
Le personnage principal donc de Unité à Boujade, c'est Karim. C'est plus vraiment un enfant, mais il est au début de l'adolescence. Il est pas non plus complètement ado. Il a en fait à cet âge où on fait plus des petites bêtises, mais on commence à faire vraiment des vraies grosses bêtises. J'allais quasiment dire le mot connerie, mais en tout cas lui il va pas se gêner. Et pourtant, comme un enfant, on a envie de le pardonner plus facilement. Pourquoi il fait toutes ces bêtises? Pourquoi qu'est-ce qui lui arrive à
Karim? Est-ce qu'il cherche sa place? Il cherche à être aimé. Tout à l'heure, je vous disais que le thème de l'étranger était à différentes strates. Ce qui m'a aussi intéressé dans le parti pris d'être du regard d'un enfant, presque adolescent, c'est quand on quitte l'enfance et qu'on va vers l'adolescence, on n'est plus tout à fait un enfant, on n'est pas tout à fait un adulte, et ben on est étranger à soi-même. Donc je voulais mixer ce thème de l'étranger qui est purement identitaire par rapport à notre changement, notre corps change, on a des poils qui poussent, on a la voix qui mue et on ne sait plus qui on est. Donc déjà les affres de l'adolescence, c'est déjà une étrangeté à part entière, et mélanger ça aux affres de l'étranger d'un point de vue plus national, je disais que c'est comme si je faisais puissance 2. Et Karim, sa grande tragédie, c'est que il a perdu sa mère, donc quelque part, il a déjà un premier exil. Denis Laferrière, l'écrivain, disait « Le pire des exils, c'est quand on quitte l'enfance ». Ben, lui, il quitte l'enfance et parce que quelque part, il est déjà obligé de faire le deuil de sa mère. Donc ça, c'est la première souffrance. Et la deuxième, c'est qu'il sent que sa place dans le cœur de son père n'est plus la même. Parce que son père s'est remarié, il a un demi-frère. Voilà, au début du film, il apprend qu'il a un demi-frère. Donc comment chercher l'amour? Comment chercher sa place? Et bien pour ça, ça passe par se tromper. Et ça passe par faire des bêtises. Et pour à ça, force d'être rejeté.
Et pour ça, il est aidé un peu par ses amis ou les amis qu'il cherche. Il y a notamment le personnage de Mehdi, qui d'ailleurs lui aussi a des problèmes avec sa mère. C'est pas son père, lui, c'est sa mère. Enfin,
tout à fait.
C'est un peu à l'abandon.
Dans la première partie du film, Karim essaie de respecter les règles. Parce qu'il pense que c'est ça qui fait qu'on va être respecté dans la société, qu'on va être respecté par son père, etc. Mais sauf que ça ne marche pas. Il a beau avoir des bons résultats scolaires, son père l'accueille froidement. Il a beau essayer de comprendre les codes marocains de cette petite bourgade, avec cette petite bande dans son quartier, ça ne fonctionne pas, il ne comprend pas les règles. Et à un moment, il se dit, respecter les règles ne fonctionne pas, peut-être qu'il faut que je sympathise avec celui qui est le marginal du quartier, Mehdi. Il est orphelin, il paraît qu'il a tué son père, ça c'est la rumeur, il a une mère malade et il fait peur à tout le monde. Et ben c'est ça qui va attirer ce jeune adolescent, c'est l'interdit. Ne pas aller dans l'interdit ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye l'interdit, si j'essaye d'aller au-delà de l'autorité?
Dans son malheur, Karim, il a la chance quand même d'avoir la belle-mère, je pense, la plus compréhensive et la plus accueillante qu'il soit. C'est pas le personnage de belle-mère qu'on a l'habitude de voir cliché dans les films, parce que généralement, souvent, la belle-mère, c'est la méchante.
Là, la marâtre.
Voilà, exactement. C'est l'héritage de Blanche-Neige, quoi. Mais là, c'est pas du tout ça. Elle est très compréhensive, elle est gentille comme pas possible. Comment vous avez créé ce personnage?
Alors c'est marrant parce qu'on me dit, en lisant le scénario, les gens qui ont collaboré au film disaient toutes les belles-mères vont t'adorer, Omar, après ce film. Mais je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que justement ce qui m'intéresse au cinéma, c'est de fabriquer des personnages ambivalents, complexes et justement de m'éloigner du cliché. C'est comme le personnage de Mehdi, on en parlait à l'instant, au début du film il est le cliché du marginal, le voleur, etc. Et à la fin il se révèle plus humain que ça et beaucoup plus profond que ça. Ben, c'est pareil pour la belle-mère, elle est étrangère. Je l'ai construite sur une troisième strate de l'étranger. C'est qu'elle aussi, elle est étrangère parce qu'elle est dans une nouvelle famille. Elle est la deuxième femme dans cette famille. Et elle a un fantôme, qui est le fantôme de Fatima, la femme morte. Et ce fantôme, quelque part, fait d'elle une étrangère. Elle est étrangère vis-à-vis de Karim, qui la voit au début comme une étrangère. Et comme tous les deux, ils ont la même problématique d'étrangeté, je me suis dit finalement ils ont ce point commun et c'est ça qui va fatalement finir par les réunir parce qu'ils se comprennent tous les deux, même si au début il y a un conflit entre les deux, forcément il va la détester parce qu'elle est là pour remplacer sa mère. Et elle a compris ce qu'elle vit elle-même, c'est-à-dire elle a compris que Karim cherchait sa place comme elle cherche la sienne, et c'est ça qui va les rapprocher petit à petit jusqu'à le dernier plan du film.
Et puis aussi le personnage du père, évidemment, qu'on pouvait pas oublier, qui est dur avec son fils, mais on sent qu'il l'aime beaucoup. On sent qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Il est entre les deux. En fait, comme beaucoup de vos personnages, en fait, ils sont pas manichéens. Ils peuvent avoir un côté méchant comme ça sur certains points. Ça peut être le cas de Mehdi, le marginal. Il fait des bêtises, il vole un peu. Le père, il est un peu dur. mais en même temps ils font ça parce qu'ils ont, ils ont des raisons à chaque fois de le faire, qui s'expliquent par leur histoire.
C'est, ça a été, je crois que ça a été le personnage le plus dur à écrire. Et ça a été le personnage qui a été le moins compris par les commissions. Parce que vous savez, quand on essaie de faire produire un film, on va aller toquer un peu aux commissions, ouais, à droite, à gauche. Et souvent, c'est des commissions françaises et qui n'ont pas compris ce personnage. Ils me disaient, mais il est trop méchant, le père.
Oh non.
Il est trop. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, il est trop méchant. On n'arrive pas à s'identifier à lui. Il est peu causant. Il dit pas à son fils je t'aime. Et je leur ai dit, mais vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire ? Un, on est dans les années 80. Eh, on parle d'un père maghrébin dans les années 80 qui est analphabète. Comment voulez-vous qu'il soit causant et qu'il dise mon fils je t'aime ? On n'est pas dans un film américain. Eh. Et encore une fois, vous oubliez qu'il y a un acteur qui va l'incarner. Et quand il y aura un acteur qui va l'incarner, et là je voudrais embrasser à distance Hatim Sadeqi, qui est un peu mon acteur fétiche, ça fait 3 films qu'on fait ensemble. Lui, il a quand on le voit, il a que de la féminité qui se dégage de lui. Et ça, je trouvais ça très intéressant, qui est un personnage dur, mais qui est joué par un acteur qui montre ses failles, qui a des failles. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Bien sûr qu'il ne peut pas parler à son fils, bien sûr qu'il est dur. Mais il est dur parce que tous les deux, ils ont un deuil qui n'a pas été fait. Il y a un non-dit dans cette famille. Et c'est tout le drame de ce non-dit qui le conduit à se comporter comme ça.
Un été à Boujade, c'est votre film, Omar Mouldouira. Le film qui est projeté ce dimanche 3 mars, donc dimanche prochain, à 15h, au cinéma L'Écran à Saint-Denis, dans le cadre du PCMMO.
Studio B, l'actu ciné.
Quelques actus ciné avec une petite semaine pour le box-office français, un peu plus de 3 millions de billets vendus en total, c'est vraiment assez faible, surtout pour une période de vacances scolaires. Dans le détail, c'est Bob Marley, One Love, qui s'impose sur la première place du podium avec 700 000 spectateurs, suivi par la comédie Maison de Retraite 2, 500 000, une autre comédie ensuite, Cocorico, avec 350 000 billets vendus. Dans la guerre des comédies, c'est Chien et Chat de Rim Kirissi qui fait le plus mauvais score, 4ème place et 280 000 spectateurs. 4 films biopics annoncés sur les Beatles. Oui, c'est pas un, j'ai pas dit un, j'ai bien dit 4, 4 films sur les Beatles. Il y en aura un pour chaque membre du groupe. C'est forcément un Anglais qui les réalisera, Sam Mendes, plus connu pour des films de guerre et d'espionnage. Les 4 films devraient être racontés sur 4 points de vue différents, mais avec des histoires qui se croiseront. Des films annoncés dans une certaine mode actuelle pour les biopics musicaux, après Queen, Elvis, Bob Marley qui est actuellement à l'affiche. Et il y a aussi des films annoncés sur Amy Winehouse, Michael Jackson, les Bee Gees ou encore Bob Dylan. La série Berlin aura une suite. Netflix a annoncé une deuxième saison pour la série Berlin, le spin-off de la Casa de Papel centré sur le personnage de Berlin qui avait disparu à la fin de la saison 2 de la série originale. Une suite expliquée par le succès de la saison 1, dont les 8 premiers épisodes ont été visionnés par 53 millions de personnes en cette semaine. On sait que le tournage débutera début 2025, mais pour le moment, on n'a pas plus de détails sur l'histoire. Voilà pour les news. On continue de parler du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. La 19e édition qui démarre ce mercredi et qui durera 15 jours jusqu'au 11 mars. Plein de beaux films à voir au cinéma L'Écran de Saint-Denis et dans toutes les salles partenaires en région parisienne. Toutes les infos sur pcmmo.org. On continue d'en parler dans Studio B jusqu'à midi. À tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe.
Merci d'être avec nous, de passer votre dimanche matin sur Beurre FM, c'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM qui parle cette semaine du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Un festival qui nous plaît beaucoup, qu'on suit, c'est la 19e édition et auquel vous pourrez participer à partir de mercredi et ce durant 15 jours, notamment au cinéma L'Écran à Saint-Denis, dans toutes les salles partenaires en Ile-de-France, notamment l'Institut du Monde Arabe. Justement, la responsable cinéma de l'Institut du Monde Arabe, Layan Chaouaf, est avec nous. On a aussi le réalisateur Omar Mouldouira, le réalisateur du film Un été à Boujade. Vous nous parlez donc de votre film qui sera projeté
dimanche 3 mai.
Voilà, dimanche prochain, dans une semaine, à 15h, au cinéma L'Écran à Saint-Denis. Je vous ai demandé de ramener un souvenir du tournage. Ça fait partie des nombreuses traditions qu'on a dans cette émission qui est vraiment remplie de traditions. Je m'en rends compte à chaque semaine. Je vous ai demandé de ramener un souvenir du tournage et vous avez ramené un badge.
J'ai ramené un badge.
Alors, on a mis une photo de ce badge
emblématique des années 80.
C'est alors, le badge. Si vous voulez voir de quoi on parle maintenant, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Studio B. Je viens de mettre une photo de ce badge. Et alors, quel est ce badge ?
C'est le badge « Touche pas à mon pote
ouais. »
d'SOS Racisme, à ne pas confondre avec « touche pas à mon poste.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont fait cette... Parce que c'est tout sauf un hommage.
Faudra lui demander.
Mais j'en dirai pas plus. C'est un objet qui est important dans la narration du film. Y a d'ailleurs toute une scène autour de ce badge à un moment donné entre Karim et Mehdi. Qui lui dit mais c'est quoi ce badge ? Il lui dit on porte ça en France, mais pourquoi on porte ça ? Ben on porte ça pour protéger mes amis arabes. Mmh. Et Mehdi lui dit mais t'es un arabe.
Et il a du mal à justifier en plus. Elle est intéressante cette séquence.
Il est complètement perdu quoi. Il sait plus qui il est en fait.
Il se demande presque pourquoi il le porte finalement. Enfin il sait pourquoi il le porte. Il sait que c'est bien. Il sait qu'il y a des bonnes valeurs, mais
ça montre complètement sa confusion identitaire quoi. Est-ce que je suis un arabe ou je suis pas un arabe ? Qui le porte ? Et finalement on le porte pour qui ? Pour nous-mêmes ou on le porte pour défendre les... Enfin bref. Et ça donne comme ça cette scène assez cocasse. Et en plus, c'est un objet qui est important tout à la fin du film parce que c'est ça qui va un peu dire autre chose de la relation entre Mehdi et Karim. Je vous laisse bien sûr découvrir quand vous verrez le film. Et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. J'ai cherché sur le Bon Coin, j'ai cherché un peu partout.
Oui, parce qu'il n'y en a plus. C'est moins un emblème maintenant.
Complètement. Il n'y en a plus du tout. Et ma femme a eu la bonne idée d'appeler SOS Racisme.
Oui, finalement.
Et ils lui ont dit, ouais, il nous en reste un. et je suis allé les voir et ils ont eu la gentillesse de m'en donner deux. Ils m'ont donné un noir et un jaune. Donc, bien sûr, j'ai pris le jaune qui est plus
emblématique.
Et ils m'ont dit, voilà, on vous l'offre, mais mettez-nous juste un petit mot à la fin dans le générique de fin. Quoi.
Et donc, vous avez mis le mot à la fin dans le générique de fin.
Et donc, je les remercie et je l'ai gardé depuis.
Un été à Boujade, c'est donc votre film Omer Mouldougra, projeté ce dimanche 3 mars à 15h au cinéma L'Écran. Layane Chaouaf, vous êtes donc responsable cinéma de l'Institut du Monde Arabe. Le PCMMO, c'est une quinzaine de films cette année, projetés en majorité donc au cinéma L'Écran de Saint-Denis. Mais sur les deux prochaines semaines, il y aura donc des séances du jeudi au dimanche. On va commencer peut-être par la séance d'ouverture avec le documentaire Danser sur un volcan.
Oui, alors c'est un documentaire de Cyril Harris. Cyril Harris suit le tournage d'un film, Costa Brava Libanon, qui est sorti déjà de Mounia Akl. Pendant ce tournage, donc il tourne lui-même un documentaire sur le tournage du film, donc un making-of en quelque sorte, et il accompagne ce film. Et il y a l'explosion au port de Beyrouth le 4 août. Et entre les deux confinements, en fait, c'était l'année aussi du Covid. Ça pose vraiment un dilemme à toute l'équipe de savoir s'ils vont continuer le tournage, s'ils vont pas continuer le tournage, s'ils vont résister aux conditions de vie après cette explosion, etc. Et donc ce documentaire retrace la résilience aussi de cette équipe face à toutes les misères du monde qui leur tombent dessus avec cette explosion et en même temps avec le Covid.
Donc ça c'est ce jeudi, on sera le 29 février, projeté donc au cinéma L'Écran, et c'est une projection qui est précédée, dont on en parlait tout à l'heure, de l'hommage à Aymar Aghin à partir de 18h. D'autres documentaires seront programmés à l'occasion de ce panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient, notamment La mère de tous les mensonges d'Asmaïn Moudir qui sort ce mercredi en salle, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Bye Bye Tibériade, Marin des montagnes et 2020-2022, année entre parenthèses, de Eger Scharf. Si je vous demande d'en choisir un entre tous.
Alors,
c'est une question piège peut-être.
C'est une question piège parce que je les aime tous. Je choisirai néanmoins Bye Bye Tibériade.
Oui. Dont on a parlé.
En raison de l'actualité, voilà, simplement.
On en a parlé la semaine dernière. Lynès Wollem était notre invitée dans Studio B. Vous pouvez d'ailleurs réécouter cette interview en podcast sur l'application Beurre FM, sur beurrefm.net. On en a parlé longuement avec elle et c'est un beau film, en effet. À l'Institut du Monde Arabe, vous proposez deux films. Un, la veille de l'ouverture et le dernier, le lendemain de la clôture. Voilà, vous faites vraiment vous ouvrez, vous pré-ouvrez et vous refermez le festival.
Oui, effectivement, on ouvre avec Inch'Allah, un fils. C'est un film jordanien qui parle des traditions et surtout des lois de l'héritage en islam qui, lorsqu'on n'a pas un fils, privilégie enfin, tout ce qui est masculin, en fait. Mmh. Les oncles, les cousins du côté paternel. Et là, il y a une jeune femme qui perd son mari soudain et qui se bat pour garder sa maison qu'elle a payée en partie et dont l'oncle veut s'emparer. Voilà, elle prétend être enceinte. Par la suite, il s'avère qu'elle est réellement enceinte. Et donc, ils doivent attendre qu'elle accouche pour savoir si c'est un garçon, parce que ça va changer la configuration de l'héritage si c'est un garçon. Ouais, voilà.
D'accord, évidemment. Mercredi, donc ça, ce film est projeté donc ce mercredi à 20h à l'Institut du Monde Arabe. Et vous faites aussi donc la clôture parisienne lundi 11 mars, donc là c'est un peu plus tard, à 20h30 avec le film Backstage.
Backstage de Afef Ben Mahmoud et Khalil Ben Kiran, qui est un film donc entre Maroc et Tunisie, puisque Afef Ben Mahmoud est tunisienne et Khalil Ben Kiran est marocain.
Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas pour ces deux films, c'est que l'entrée est libre. On dit toujours que le cinéma c'est un peu cher.
C'est sur invitation, mais il suffit de la demander.
Voilà. Il suffit de s'inscrire sur imarab.org pour ces deux films qui sont projetés donc à l'Institut du Monde Arabe. Il y a beaucoup d'avant-premières, on a parlé de Backstage, il y a aussi Six Pieds sur Terre, il y a Inch'Allah un fils dont vous avez parlé aussi, il y a le film Reine qui sortira dans 15 jours en salle, il y a également des films de patrimoine, le PC Mémo met toujours à l'honneur des films de patrimoine, notamment le Festival Panafricain d'Alger, un film tourné en 69, Class of Failed People tourné en 87, Omar Gadlato tourné en 76, La Bataille d'Alger tourné en 66, peut-être si vous en avez un à retenir parmi...
Alors, celui que tu n'as pas cité.
Ah ben voilà.
Alger Insolite, Tahia Yadidou, qui va passer le 8 mars, donc le vendredi 8 mars à 18h30. Ce film, c'est l'unique film du comédien Mohamed Zinat. C'était une commande à la base donc de la ville d'Alger. Et la commande ne convenait absolument pas quand le film a été terminé. Et c'est un film vraiment à voir. On a un couple de touristes français, ouais, dont l'homme se trouve face à face avec un Algérien qu'il a torturé pendant la guerre d'indépendance. C'est un film vraiment à ne pas rater. Pour moi, c'est un des films les plus importants du cinéma algérien. Bon, j'aime aussi Omar Gadlato. C'est un film très cher à mon cœur. Omar Gadlato Roujoula, pour le titre arabe. Ouais. C'est un film très cher à mon cœur. Aussi, donc n'hésitez pas à aller voir tous les films patrimoniaux, parce que c'est des films qui sont rares à trouver et qui passent rarement en France.
Et voilà, c'est l'occasion de les voir dans une salle, sur un grand écran, et ça change tout quand on voit un film. Il y a aussi une séance pour les enfants. Moi, j'aime bien parler du cinéma pour les enfants.
Un film délicieux, Le Chat du Rabbin.
Voilà, Le Chat du Rabbin.
C'est une invitation quand même à la tolérance, ce film, au vivre ensemble entre un cheikh qui s'appelle Sfar et un rabbin qui s'appelle Sfar, entre un russe qui arrive dans une caisse de livres en Algérie et qui veut aller jusqu'en Éthiopie pour chercher une ville, Jérusalem, qui est là-bas, et qui va rencontrer, qui va tomber amoureux d'une servante africaine qui va épouser. C'est vraiment une ode à la tolérance et au savoir, et au vivre ensemble.
Voilà, un film parfait pour les enfants. Il est tout mignon en plus. Enfin,
Le chat, c'est un vrai délice. Un chat qui parle, ça a toujours été mon rêve.
Ça marche toujours. Un chat dans un film, ça marche forcément. Alors, le PCMO, c'est des films et c'est aussi des tables rondes. Alors, cette année, une version un petit peu réduite, vous l'aurez compris. Il y en a une seule qui est organisée, dont le thème sera de quelles images sommes-nous faits. Toutes les infos, vous les retrouvez sur le site pcmmo.org. C'est important, les festivals. Omar Moudouira, votre film Un été à Boujad n'est pas encore sorti en salle. Et pourtant, il a un beau parcours en festival. Hein. Ça fait presque 2 ans maintenant qu'il tourne dans différents festivals. Qu'est-ce que ça représente, un festival comme le PCMMO, pour vous, pour votre film en tout cas?
C'est une chance, vu la qualité de la programmation, déjà c'est un honneur de faire partie de cette programmation, et c'est toujours une chance de pouvoir montrer le film sur grand écran, de pouvoir discuter avec le public, d'avoir un échange, de voir comment le film est reçu, et de le faire connaître, tout simplement. Et de rencontrer des gens, parce qu'à chaque fois on rencontre d'autres réalisateurs, d'autres artistes, et voilà quoi. Je suis toujours très content d'aller accompagner mon film à chaque fois qu'il va dans un festival, même si c'est à l'autre bout du monde. C'est vraiment très plaisant quoi.
Et c'est aussi un parcours qui peut permettre ensuite une sortie en salle. C'est là qu'il peut être repéré par un distributeur.
On espère. Ouais. On espère, oui.
J'ai pas oublié la question qu'on avait dit que je vous poserais à un moment. Quel est votre prochain film, Omar Moudouira?
J'en sais absolument rien.
Ah d'accord, tout ça pour ça.
Non, j'ai des envies. Vous savez, ce film-là, il m'a pris 7 à 8 ans de ma vie, le double en espérance de vie. Voilà, après un accouchement aussi difficile, j'avoue que se remettre un peu dans le... Le plus important, c'est que je retrouve le désir, et je sais qu'il est là, je sais qu'il y a des envies. Je sais que j'ai aussi envie de changer de registre, voilà, les films.
On fera peut-être un film ensemble, non ?
Peut-être, avec grand plaisir.
Pourquoi pas.
On en a déjà parlé.
Exactement, et en plus, je change complètement de registre. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est d'aller explorer de nouveaux horizons, peut-être avec la Yann.
En tout cas, celui-ci est déjà fait, il s'appelle Un été à Boujade, il est projeté ce dimanche 3 mars à 15h au cinéma à l'écran, dans le cadre du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. On a donné plein d'infos sur ce festival, mais évidemment, on a raté la moitié, donc pour avoir plus d'infos encore, vous allez sur pcmmo.org. Moi, je voulais aussi rappeler les tarifs, parce qu'au-delà des séances gratuites sur invitation, il suffit de s'inscrire sur imara.org pour les deux séances d'ouverture et de clôture parisienne à Lima. Les séances à l'écran sont tout à fait abordables, 7 euros seulement la séance. On est loin des prix exorbitants pratiqués par beaucoup de multiplex. Donc voilà, 7 euros la séance, c'est l'occasion de voir des beaux films pour pas cher. pcmmo.org pour toutes les infos, également sur Facebook et Instagram, et on va vous mettre le lien sur le site de Beurre FM. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Layane Chaouaf, merci beaucoup Omar Mouldouira. La suite du programme sur Beurre FM, c'est le retour de la musique. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez déjà la retrouver en podcast sur beurrefm.net, sur l'application. On se retrouve dimanche prochain 11h midi, et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.